France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Au lendemain de l'attaque à Washington dans laquelle deux employés de l'ambassade israélienne ont été tués par un homme qui appelait à libérer la Palestine, on en connaît un peu plus sur les circonstances de ce drame que l'on détaillera dès le début du journal. Et puis avec notre invité, on se demandera si l'offensive à Gaza fait aujourd'hui bouger ou non les lignes des oppositions à Benjamin Netanyahou au sein de la société israélienne. On se rendra par ailleurs en Allemagne, bien décidé, on le verra, à se doter de l'armée la plus puissante d'Europe. Et puis, l'actualité en France, c'est tout d'abord la publication ce matin après plusieurs reports successifs de la liste actualisée des métiers dits en tension, permettant notamment de régulariser des travailleurs étrangers. Enfin, on tâchera de comprendre jusqu'à quel point les restrictions budgétaires affectent aujourd'hui le programme d'accueil en urgence de chercheurs et d'artistes contraints à l'exil. Partout où les Israéliens sèment la mort à Gaza, les Palestiniens craignent désormais plus la faim et les maladies que les bombardements ou quand la situation humanitaire dans l'enclave apparaît décidément plus que jamais inhumaine. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est dit prêt à accepter un cessez-le-feu temporaire, mais uniquement pour libérer les derniers otages, avant de réitérer son objectif de prendre à terme le contrôle de toute la bande de Gaza. De son côté, l'armée a dit regretter la gêne occasionnée après que ses soldats ont tiré à balles réelles lors d'une visite de diplomates étrangers en Cisjordanie occupée, un incident qui a immédiatement suscité un tollé avec le risque fort d'alimenter les pressions de plus en plus accrues sur l'État hébreu face à la situation humanitaire catastrophique et à l'intensification de ses opérations militaires à Gaza. Et toute cette séquence intervient donc à un moment qui plus est délicat puisque hier soir, deux employés de l'ambassade israélienne aux États-Unis ont trouvé la mort après avoir été abattus devant le musée juif de Washington en plein centre de la capitale. Omar Ouaman, bonjour.
Bonjour Thomas.
Depuis ce matin, les capitales du monde entier font part de leur indignation. Est-ce qu'on en sait davantage sur le profil du tueur présumé qui a été arrêté a priori sans opposer de résistance?
Alors, sur une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, on peut voir un homme calme, en costume noir, chemise blanche, portant des lunettes. Il vient d'être arrêté, menotté par les forces de l'ordre, sans opposer de résistance aux abords de ce musée juif de Washington. Et cet homme a été identifié. Il s'appelle Elias Rodriguez, 30 ans, originaire de la ville de Chicago dans l'état de l'Illinois. Et fait notable, Thomas, lors de son arrestation, il a crié à plusieurs reprises un slogan que l'on entend souvent dans les cortèges et manifestations pro-palestiniennes. Selon une courte biographie qui lui est consacrée sur le site l'un de ses employeurs, Elias Rodriguez est titulaire d'une licence d'anglais de l'Université de Chicago. Ses passions seraient la musique et l'écriture. Très peu d'informations, en vérité, circulent à son sujet à ce stade. Il est actuellement interrogé par le FBI et la police de la capitale fédérale américaine. Cet attentat s'est déroulé en plein cœur de Washington, vous l'avez dit Thomas, et a provoqué la stupeur dans la ville, la maire de Washington, Muriel Bowser.
Nous ne tolérerons pas cette violence et cette haine dans notre ville. Nous ne tolérerons aucun acte terroriste et nous ferons face ensemble en tant que communauté dans les jours et les semaines à venir pour envoyer un message clair. Nous ne tolérerons pas l'antisémitisme.
Et ce que l'on sait également, Thomas, c'est qu'Elias Rodriguez collabore avec les forces de l'ordre, puisque c'est lui, notamment, qui a indiqué aux enquêteurs l'endroit où il a jeté son arme. La question qui se pose maintenant est de savoir si c'est un acte isolé ou commandité, avec des complicités, comme le laisse entendre Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui s'est empressé de déclarer vouloir retrouver les responsables et les traduire en justice.
Merci Omar Ouaman. Alors ce matin, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné de renforcer la sécurité de toutes les représentations diplomatiques de son pays à travers le monde, voyant dans cette attaque le résultat, je cite, d'une furieuse incitation à la violence contre Israël, dont les actions militaires à Gaza alimentent aujourd'hui de nombreux mouvements de protestation pro-palestinien. Dès lors, que penser de la position aujourd'hui désastreuse d'Israël sur la scène internationale? Récemment, les déclarations du ministre suprémaciste chargé de la Cisjordanie prônant la destruction de toute la bande de Gaza et l'affamement de ses habitants jusqu'à ce qu'ils acceptent d'être déportés ont enflammé les chancelleries du monde entier. Et le fait est que, même si Benjamin Netanyahou annonçait demain la fin de la guerre à Gaza, seul probablement un changement de gouvernement pourrait restaurer la confiance et le statut moral de l'État hébreu dans l'opinion internationale. Et la question question se pose aussi au sein de la société israélienne elle-même. Jusqu'à quel point l'offensive à Gaza fait-elle bouger ou non les lignes des oppositions à Benjamin Netanyahou? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Ofer Bronstein, président du Forum international pour la paix au Proche-Orient. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Avant de s'interroger sur la question donc des résistances internes en Israël, peut-être pour commencer, comment réagissez-vous au meurtre de ces deux employés de l'ambassade israélienne à Washington?
C'est une horreur. C'est une horreur. C'est terrible de voir en France et maintenant aux États-Unis, un peu partout dans le monde, ceux qui importent le conflit israélo-palestinien sur nos territoires. Qu'on soit pro-palestinien, c'est tout à fait légitime, mais qu'on devienne antisémite ou anti-israélien et qu'on commette des actes barbares comme celui qui a été commis dans la nuit à Washington, c'est absolument inacceptable. Et de plus, ça ne sert absolument pas à la cause palestinienne. Bien au contraire. Bien au contraire. Les Palestiniens avec lesquels je suis en contact quotidien me disent arrêtez ces manifestations à Paris qui parlent de la rivière jusqu'à la mer. Arrêter ces incitations à l'antisémitisme, ça ne nous sert pas.
Ces actes pourraient éloigner un peu plus encore une paix possible dans les territoires palestiniens.
Je pense pas que les actes pourraient éloigner une paix possible entre Israéliens et Palestiniens. Je pense que ces actes alimentent les extrémistes qui ne veulent pas la paix. Ces actes, au contraire, nous. Et mes actions en tant que chargé de mission par le président de la République ou en tant que militant pour la paix, ça nous encourage à aller plus de l'avant et à faire venir autour de nous le maximum d'Israéliens et de Palestiniens qui sont contre les actes d'antisémitisme, qui sont contre les actes de racisme, qui sont pour le rapprochement et le dialogue parce qu'ils veulent que cette guerre se termine, parce qu'ils veulent qu'on reprenne la raison et qu'on reprenne le chemin, le seul chemin. C'est pas un chemin, le seul chemin d'un bon voisinage, d'une réconciliation. Ça va être dur. Les plaies que la société israélienne et aujourd'hui la société palestinienne sont en train de les douleurs, les souffrances qu'ils sont en train de vivre sont abominables.
Monsieur Bronstein, je le disais en introduction, en Israël, le discours de déshumanisation des Palestiniens, d'éradication de la bande de Gaza se sont banalisés. Or, cette semaine, le chef de file de la gauche israélienne a dénoncé, lui, la guerre faite à des civils à Gaza au nom d'objectifs politique, ces déclarations ont évidemment aussitôt déclenché une certaine polémique. Pour autant, faut-il y voir le signe, selon vous, que les termes de la discussion sont peut-être en train de changer en Israël?
Oui, déjà, on le voit depuis déjà quelques mois. Et ça s'intensifie au quotidien. La guerre à Gaza était suite à l'opération barbare terroriste du 7 octobre 2013 commise par le Hamas. L'objectif de cette guerre qui a été annoncée aux Israéliens était de faire revenir les otages. Petit à petit, on a vu que les objectifs étaient en train de changer. Après, c'était éradiquer le Hamas. Maintenant, c'est l'occupation de Gaza. Et dernièrement, on a entendu le Premier ministre israélien parler à une victoire totale. Je ne vois pas comment on peut avoir une victoire totale dans une catastrophe aussi grande. Il n'y aura que des pertes totales. La société israélienne est en train d'être blessée. La société palestinienne et surtout les Gazaouis sont profondément blessés. Et moi, je suis encouragé quand même, si on peut trouver de l'optimisme dans cette situation qui est terrible, c'est que je vois la société israélienne aujourd'hui se mobiliser. On a vu 25 généraux, chefs d'état-major, chefs de la police israélienne, ex-chefs des renseignements israéliens du Mossad, du Shabak, et signé une lettre il y a quelques semaines disant arrêter cette guerre pour pouvoir libérer les otages. Il faut arrêter la guerre et pas le contraire. Les otages ne seront pas libérés, au contraire, leur vie est en danger tant que cette guerre continue, à part les dommages catastrophiques pour la population de Gaza. Après cette signature de responsables, il y a eu des centaines de médecins, il y a eu des centaines de soldats, il y a eu des centaines de professeurs, d'institutions, d'artistes, d'intellectuels. Donc il y a un mouvement dans la société israélienne, et il y a des manifestations de milliers d'Israéliens tous les jours. Tous les jours, la famille des otages, plus des Israéliens qui se mobilisent au jour le jour pour dire arrêtez cette guerre pour qu'on puisse libérer les otages.
Ça veut dire que vous croyez encore à ce sursaut, parce que ça fait des mois qu'on a le sentiment que le jusqu'au boutisme du Premier ministre paraît intenable aux observateurs.
Mais vous savez, le paradoxe israélien, c'est qu'Israël est une démocratie. Aujourd'hui, les sondages, il y en a chaque semaine, parle de 75 à 80% de la population israélienne qui appelle et qui veut que la guerre se termine. le gouvernement actuel ne représente pas la volonté du peuple israélien. Cette coalition ne représente pas, au contraire, elle nuit à l'image d'Israël. On voit comment Israël est considéré comme une paria dans le monde. Les critiques envers Israël se font de plus en plus dures, sévères. Et on voit que, malheureusement, que ça déborde sur des assassinats antisémites comme celui que les Américains ont connu la nuit dernière. Mais le problème de cette démocratie, c'est qu'aujourd'hui, il y a une coalition qui représente que 55% des membres du Parlement. C'est ça qui est absurde. C'est une coalition qui est très très faible. Mais elle se tient, elle est très solide. Parce que les gens de cette coalition comprennent très bien que s'il y a des élections demain, ils vont perdre le pouvoir. Ils vont perdre tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire les chauffeurs et les voitures et les cuisiniers et tous les avantages que peuvent le pouvoir. Et une partie d'entre eux vont devoir remettre en question leur idéologie raciste et fascisante. Donc ils ne représentent pas d'un côté la volonté du peuple palestinien, mais de l'autre côté, étant donné qu'il y a eu des élections et qu'ils représentent 55% et pas plus dans le Parlement israélien, ils détiennent encore le pouvoir.
Et l'on terminera par ces mots. Merci Ofer Braunstein, président donc du Forum international pour la paix au Proche-Orient, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation. Parce qu'à chaque jour suffit sa turpitude ou sa trumpitude, c'est selon ce soir, c'est avec blazer et cravate de rigueur que se tiendra au Trump National Golf Club un dîner d'un genre inédit où seuls seront conviés les 220 plus gros détenteurs de la crypto-monnaie de Donald Trump, cette devise numérique lancée quelques heures seulement avant son investiture. Bref, un événement à la croisée donc du pouvoir et de l'argent, et forcément jugé scandaleux par l'opposition démocrate, laquelle crie au conflit d'intérêts.
C'est un pas concret et symbolique pour l'Allemagne.
Oui, pour la première fois depuis l'après-guerre, l'armée va envoyer une brigade complète de manière permanente à l'étranger, en l'occurrence en Lituanie. Celle-ci entrera en fonction dès aujourd'hui avec l'objectif de renforcer le front Est de l'OTAN face, bien sûr, à la menace russe. Et pour l'occasion, le chancelier Friedrich Merz et son ministre de la Défense se sont d'ailleurs eux-mêmes rendus sur place. Sébastien Baer, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Berlin. L'Allemagne, profondément pacifiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a longtemps sous-financé, on le sait, sa défense, en s'en remettant notamment à la puissance américaine au sein de l'OTAN. Il se trouve qu'après une première hausse sensible déjà de son budget sous le mandat de son prédécesseur, le nouveau chancelier Merz, est allé encore plus loin en décidant de supprimer carrément les limites d'endettement pour les dépenses militaires. Et tout cela, Sébastien, dans le but de doter son pays de l'armée la plus puissante d'Europe.
Oui Thomas, ce sont les mots du nouveau chancelier, persuadé qu'après l'Ukraine, la Russie s'attaquera à d'autres pays. Friedrich Merz fait ce constat, la force dissuade les agresseurs, la faiblesse les incite à l'agression. Pour le chancelier, pas question donc de subir, il fait du renforcement de l'armée allemande la priorité absolue. C'est un défi car la Bundeswehr manque de tout, victime de décennies de sous-investissement. Il faut des chars, des blindés, des munitions, surtout remplacer le matériel qui a été fourni à l'Ukraine. La Bundeswehr souffre aussi d'un déficit de personnel. 183 000 soldats sont actifs selon le dernier recensement. Il en faudrait 100 000 de plus selon le général Breuer qui commande la Bundeswehr. Pour moderniser l'armée, Merz se donne tous les moyens. Le Bundestag a modifié la constitution pour assouplir la règle du frein à l'endettement, ce qui va permettre de dépenser presque sans compter pour la défense. Le projet est surnommé le bazooka. Il devrait dégager chaque année 200 milliards d'euros, soit 4 fois plus qu'aujourd'hui. Cette enveloppe va aussi permettre à Berlin de respecter les nouveaux objectifs de dépenses militaires de l'OTAN qui seront annoncés le mois prochain. Sous la pression de Donald Trump, le seuil devrait passer de 2 à 3,5% du PIB d'ici 2032. Là encore, un défi, Thomas, pour l'Allemagne qui n'a franchi que l'année dernière le cap des 2%, pourtant fixé par l'OTAN depuis 2014.
Merci Sébastien Baer en direct de Berlin.
Combien de chercheurs et d'artistes en exil menacés le programme d'accueil Pause parviendra-t-il à mettre à l'abri cette année?
La question apparaît d'autant plus cruciale et la réponse d'autant plus urgente que la semaine dernière, un architecte palestinien qui aurait dû trouver refuge en France dans le cadre de ce programme a été tué dans la bande de Gaza. Alors depuis, les directeurs d'universités qui attendent d'accueillir les lauréats de ce dispositif ont écrit au président de la République. Par ailleurs, une pétition circule à présent et en particulier pour que soient exfiltrés en urgence les 12 Palestiniens justement sélectionnés et leurs familles qui sont évidemment aujourd'hui en danger de mort. T'arraches Schlegel, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Au-delà des artistes donc, et des scientifiques en danger dans la bande de Gaza, la France accueille aussi des lauréats du monde entier. Or, cette année, Tara, eh bien, le financement de ce programme est tout particulièrement menacé.
Oui, le budget a fondu de moitié pratiquement. Les crédits récurrents se limitent à 3,5 millions d'euros. Hors de Gaza, mais pas seulement, l'équipe de pause lit chaque jour des appels au secours depuis le Collège de France où elle travaille. Laurine Grant, qui suit les artistes, et Marianne Poche, qui est en lien avec les scientifiques, évoque par exemple cette dessinatrice.
Donc, Safa Oda, elle est accueillie à l'École européenne supérieure de l'image, en lien avec Cartooning for Peace.
Mais elle ne peut pas sortir pour l'instant, c'est
non.
Ça
non, non, elle est coincée, donc Marianne va nous lire un message qu'elle
en fait,
a adressé.
Voilà, elle écrit comme beaucoup de personnes qui sont bloquées, elle décrit leur situation et... donc ça, voilà, je ne sais même pas quoi dire. Ou dois-je vous dire que nous sommes affamés, que la nourriture est épuisée depuis longtemps? Me demander si je vais bien. Je ne vais pas bien. Je vous remercie de votre intérêt et j'espère juste que l'on continuera à écouter parce que nos voix sont tout ce qu'il nous reste.
Dans les universités aussi, comme le campus Condorcet, les référents espèrent plus de financement. La politiste Pascale Laborier attend, elle aussi, l'arrivée d'un lauréat.
C'est un artiste graphiste qui est assez connu. D'ailleurs, on surveille les quelques publications qu'il fait sur Instagram qui nous permettent de savoir qu'il est encore en vie. Donc, tous les jours, tout le monde, on regarde ce qui se passe. Et bon, ses dessins sont de plus en plus sombres. On voit des figures d'anges. Il y a beaucoup de figures d'anges avec des têtes d'enfants.
Qui s'envolent
vers le ciel. Bon, de bâtiments détruits qui sont proches de là où il se trouve.
Autrefois, ajoute Pascal Laborier, qui a fondé le programme en 2017, autrefois, dit-elle, cet artiste dessinait avec des couleurs, l'amour et la joie.
On reçoit tous les jours des messages, effectivement, de désespoir.
Laura Louéac dirige Pause.
Et malheureusement, on n'est plus en capacité de mettre en place la procédure d'urgence, puisque le programme est dans une situation budgétaire critique aujourd'hui et n'est pas en capacité de répondre aux besoins, non seulement pour les Palestiniens, mais plus largement tous ceux et celles qui viennent d'autres pays en crise et de plus en plus nombreux.
En 2022, les fonds d'urgence avaient effectivement permis d'aider plus de 250 Ukrainiens et Ukrainiennes. Cette année, le programme pourra au mieux accueillir 70 lauréats.
Merci Tara Schlegel.
Agriculture, aide à domicile, hôtellerie ou restauration, la liste actualisée des métiers en tension a été publiée ce matin après plusieurs reports successifs.
Oui, transmise par le gouvernement aux partenaires sociaux, c'était le 21 février dernier. Cette mise à jour prévue chaque année devait être publiée il y a déjà 3 mois. On va revenir sur les raisons de ce report, mais rappelons tout d'abord que cette liste énumère donc les 80 métiers en manque de main-d'œuvre et grâce auxquels les travailleurs étrangers peuvent prétendre à un titre de séjour et ce faisant les patrons recrutaient de leur côté des employés en écartant le risque d'une condamnation. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
La dernière version de cette liste datait de 2021. Y a-t-il pour commencer, Camille, des changements notables?
Alors il y a quelques secteurs où la liste s'étoffe un peu. On pense forcément à la restauration et à l'hôtellerie qui en attendaient beaucoup depuis des années. Le métier de cuisinier est reconnu comme en tension dans les 13 régions françaises, mais pas celui d'aide-cuisinier ou de plongeur en Ile-de-France, ce qui ne satisfait pas entièrement les employeurs alors que la pleine saison touristique va débuter. En fait, la liste n'a quasiment pas évolué depuis fin février et les discussions avec les partenaires sociaux. Tout de même, les pêcheurs, aquaculteurs ont été ajoutés en Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire et les ouvriers de maintenance mécanique en Bretagne. La liste publiée hier reconduit surtout les facilités de régularisation pour plusieurs métiers de salariés agricoles obtenus l'an dernier après les grandes manifestations d'agriculteurs. Les infirmiers, aides à domicile, aides ménagères, employés de maison sont aussi dans la liste, tout comme dans le secteur du bâtiment, les maçons, sauf en Ile-de-France, région qui concentre pourtant 1/5 de tous les travailleurs sans papier de France. À noter que des professions sortent aussi de la liste. Un charpentier, conducteur routier, chaudronnier, serrurier ou forgeron notamment sont considérés comme des métiers en tension dans moins de régions que dans la liste officielle précédente de 2021.
Je le disais, Camille, la publication de cette liste a donc été maintes fois reportée. Y a-t-il des raisons peut-être politique qui pourrait expliquer un tel retard.
En tout cas, la liste est enfin publiée 4 jours après la fin de la campagne pour la présidence du parti Les Républicains, remportée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Il est, on le sait, porteur d'une ligne dure sur l'immigration. Il était contre les régulations de travailleurs sans papiers sur des métiers en tension. Au moment de la loi immigration fin 2021, il a promis à ses électeurs de réduire l'immigration en France. Alors, pas évident pour lui, en pleine campagne dans son parti, d'apparaître comme le ministre en poste quand la liste des métiers en tension est élargie, même si elle l'est au final assez peu, de l'avis des organisations patronales qui, elles, sont sur une ligne bien plus ouverte sur l'immigration de travail que le ministre Retailleau, patron des préfets français, à qui il a bien rappelé récemment, je cite, que les régularisations doivent rester exceptionnelles.
Merci Camille Magnat. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi avec du soleil sur la majeure partie du pays, même si des averses restent possibles sur les reliefs. Quant aux températures, elles seront comprises entre 13 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.